Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8. Romains chapitre 8, et nous allons lire les quatre premiers versets. Romains chapitre 8, à partir du verset 1, voici la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous aimez les romans policiers ou les films policiers, mais dans ces livres, dans ces romans, on a une scène qu'on peut retrouver parfois et qui revient assez régulièrement. Alors ça peut se passer dans différents endroits, ça peut se passer à Londres, ça peut se passer à New York ou ça peut se passer à Amsterdam. Et on voit dans cette scène un truand, un criminel qui vient chez une personne et qui va sortir de sa poche un diamant. Et la personne à qui ce criminel, ce truand se présente va, elle, sortir une petite loupe qu'elle va mettre devant son œil. Elle va vérifier, elle va regarder ce diamant et l'examiner et regarder toutes les facettes du diamant. Alors, si on cherche un peu sur Internet, on voit que la taille idéale a été définie par un certain Marcel Tolkowski, un ingénieur et un diamantaire belge. C'est la base de la taille moderne et la taille idéale d'un diamant comporte 58 facettes. Et donc l'homme qui reçoit ce diamant, qui regarde, va regarder ce diamant, va regarder ses différentes facettes et va voir si ce diamant a beaucoup de valeur et va voir la perfection, la beauté de ce diamant. Dans les chapitres que nous venons d'étudier de Romains, les chapitres 5, 6, 7 et maintenant le chapitre 8, Paul veut que nous apprenions à considérer la vie chrétienne et ce qu'il enseigne dans ce passage comme un seul diamant qui possède de nombreuses facettes. Certaines personnes, en arrivant en Romains 8, vont dire « Ah, finalement, on est sorti de Romains 7 pour entrer dans Romains 8. » Mais j'espère que ce n'est pas notre cri. J'espère qu'on ne dira jamais « On veut sortir de Romains 5 » ou « On veut sortir de Romains 6 » On veut sortir de Romains 7 ou de Romains 8. Parce que Paul fait quelque chose dans ces chapitres. Et on l'a déjà souligné. Paul ne nous conduit pas dans un voyage chronologique dans les semaines, les mois, les années de l'expérience chrétienne. Non, mais il nous explique ce que veut dire avoir été transféré du royaume de la famille d'Adam vers le royaume et la famille de Jésus-Christ. Hors du royaume où règne le péché, où règne la mort, vers le royaume où règne la grâce et la vie en abondance. Et dans les chapitres qui suivent, Paul va tenir ce diamant qui est être en Christ. Et il va nous montrer les différentes facettes de l'expérience spirituelle de ceux qui sont en Christ. Il y a la beauté d'être en Christ. Il y a la valeur d'être en Christ. Même si nous sommes encore dans ce corps que nous avions hérité de nos parents, ce corps que nous avions quand nous étions encore dans le royaume d'Adam. On a souligné déjà plusieurs choses. Je fais juste un petit rappel ici pour la souligner. En Romains chapitre 7, que le péché habite en moi, c'est une réalité. même si pour le chrétien, Christ maintenant demeure en nous. Au chapitre 6, Paul nous a dit que nous étions morts au péché, mais nous ne sommes pas, mais nous devons encore nous combattre contre le péché qui n'est pas encore mort en nous. Et bien que nous sommes libérés de la loi, comme Paul l'a souligné, nous ne sommes pas encore parfaits selon les exigences de la loi. Et ces choses sont vraies, et la vie chrétienne est un combat. Il y a des luttes dans la vie chrétienne. Quand le chrétien grandit, il prend de plus en plus conscience de l'horreur du péché qui est encore là, de la corruption qui est encore dans son cœur. Et il a besoin de revenir sans arrêt à la source de la grâce qui est en Jésus-Christ. Après avoir dit ces choses, on va quand même entrer d'une certaine façon dans Romains 8. Et on va passer du temps dans ce chapitre. Ça va être pour certains une leçon de patience, parce qu'on voudrait arriver à la fin du chapitre, parce qu'on aime bien les versets de la fin de ce chapitre. Mais on va prendre le temps pour apprécier l'ensemble de ce chapitre. Et comme Paul nous a emmenés déjà dans les chapitres précédents, très loin dans notre réflexion, ce qui met en évidence que la parole de Dieu ne rétrécit pas l'intelligence, au contraire, elle développe l'intelligence, elle développe aussi les émotions. Paul nous a emmenés très loin en Romains 7, il va encore nous emmener plus loin en Romains chapitre 8. Et nous commençons donc ce matin par les quatre premiers versets de ce chapitre que l'on va diviser en trois points. Et le premier point, c'est que l'Évangile nous donne l'assurance qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En fait, tout ce chapitre traite de la question de l'assurance. Il parle des différentes manières dont l'Esprit de Dieu nous amène dans cette certitude joyeuse que nos péchés sont pardonnés, que Dieu est devenu notre Père céleste. Et simplement pour donner un plan de ce chapitre, dans les versets 1 à 4 que nous voulons voir ce matin, nous avons l'assurance de notre salut à cause de l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous en Jésus-Christ. Les versets 5 à 11, nous avons l'assurance de notre salut dans le fait que nous ne sommes plus dans la chair, nous ne sommes plus dominés par la chair, mais que nous vivons selon l'Esprit. Dans les versets 12 à 17, nous avons l'assurance de notre salut dans le fait que nous sommes les enfants de Dieu. Dans les versets 18 à 25, nous avons l'assurance de notre salut dans le fait que même les souffrances que nous connaissons, ou plutôt en particulier à cause des souffrances que nous connaissons, nous voyons cela comme une préparation divine pour la gloire. La chose qui semble barrer la route vers la gloire est en réalité un instrument que Dieu utilise pour nous préparer. Versets 26 et 27, nous avons l'assurance de notre salut parce que bien que nous sommes désespérément faibles, l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse. Versets 28 et 30, nous avons l'assurance de notre salut parce que Dieu a déterminé, a amené à la perfection ce qu'il a décidé depuis toujours pour nous. Et dans la fin du chapitre, verset 31, et jusqu'à la fin, nous avons l'assurance de notre salut dans le fait que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et donc Paul commence ce merveilleux chapitre avec cette parole d'assurance. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous avez remarqué ce petit mot, cette conjonction de coordination. Donc, il y a donc maintenant. Et Paul nous renvoie, non pas ici au verset précédent, mais au chapitre 5. Vous vous rappelez qu'on a dit que Paul aurait très bien pu passer de la fin du chapitre 5 au début du chapitre 8, en oubliant chapitre 6 et 7, mais il l'a fait pour nous expliquer plus en détail, pour aller au plus profond de la chose. Et maintenant, ici, il nous renvoie à l'argumentation du chapitre 5. Christ a été fait propitiation pour nos péchés. Il nous apporte la justification, il nous apporte la rédemption. Et avec tous ces trésors du salut en Christ, nous pouvons arriver à cette conclusion. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Certains d'entre nous doivent aller voir un ophtalmologue ou un optométriste de temps en temps pour vérifier notre vision. Et ce spécialiste va utiliser différents moyens, différents appareils, différentes méthodes, les plus sophistiquées et moins sophistiquées. Et à un moment, il va nous lire, il va nous demander de lire la ligne du bas avec les plus petits caractères. D-E-F-O-P-T-L-C. Je ne la connais pas par cœur. Non, je vais chercher. Mais il va pousser plus loin. Et il va faire un petit réglage sur son appareil, sur ce qu'il a mis devant nos yeux. Et ensuite, il va faire un deuxième réglage. Et en nous demandant de nous concentrer sur une lettre en particulier, il va faire ce premier réglage, ensuite un deuxième réglage. Et il va nous dire, mais quel est le réglage qui fait que la lettre est le plus nette ? Si vous n'avez jamais fait vérifier vos yeux, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Hein? Mais voilà, il va faire un premier réglage, ensuite un deuxième, en nous focalisant sur une seule lettre, il va dire quel est le réglage. Pourquoi ? Parce qu'il veut faire, il veut savoir ce qu'il doit prescrire, quelle modification, quelle correction il doit prescrire pour que cette lettre, et puis les autres, soit la plus nette possible. Et il nous demande de nous concentrer sur une lettre, et une lettre en particulier. Alors comment est-ce qu'on va appliquer ça ? Dans ce premier verset, regardez le texte. Ne me regardez pas parce que ce n'est pas marqué sur mon front, hein, ce n'est pas marqué sur moi, c'est marqué dans le texte. Regardez le texte de verset 1, c'est marqué « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et on va se focaliser sur un mot, sur ce mot « aucune ». Et on va faire quelque chose mentalement. On va prendre ce mot « aucune » et on va le placer au début du verset. Parce que dans le grec, c'est là où il se trouve. C'est là, à la première place. Aucune condamnation. Et c'est là-dessus que Paul veut mettre l'accent. Aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pour aller plus loin, le terme que Paul utilise est un terme qui est fort, et pour vraiment comprendre le sens, il faudrait le traduire par l'expression « même pas une seule condamnation ». Et Paul commence ce passage avec ce terme « même pas une seule condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Et ça, c'est le point que Paul veut souligner. Paul veut que ce soit clair, que ce n'est pas seulement dans un sens général qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il n'y a même pas une seule condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même pas une seule. Rappelez-vous ce que Paul a écrit au chapitre 5. Il a dit, dans la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons naturellement, c'est le fruit d'une seule offense du premier homme. Mais la chose remarquable de l'Évangile, c'est que l'enlèvement de toute condamnation, la justification, vient après un grand nombre d'offenses. Et nous devons saisir cela, nous qui sommes à Christ. Nous avons ici une proclamation qu'il n'y a pas le moindre péché dans ma vie qui pourrait me condamner parce que je suis en Christ. Il n'y a pas une seule condamnation. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que Satan va toujours trouver le moyen de nous rappeler nos péchés. Notre conscience coupable va ramener nos péchés à la surface. Mais on voit cela dans l'expérience des chrétiens qui nous ont précédés. David, dans le psaume 25, par exemple, crie au verset 7, « Ne te souviens pas de fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Et on pourrait aller interviewer, si c'était possible, tous les croyants, tous les personnages que nous voyons dans les Écritures. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Et là, Noé, par exemple, viendrait et nous dirait, ben, c'est important pour moi. Parce qu'après tout ce que Dieu a fait pour moi, en me préservant du déluge, en me sauvant, en me mettant dans l'arche avec ma famille, en me faisant entrer dans un monde qui a été remis à neuf, après avoir établi son alliance, voilà, moi je me suis enivré, je me suis découvert dans ma tente. Et c'est une honte, c'est quelque chose qui me hante et qui va me hanter jusqu'à la fin de mes jours. Et l'Évangile vient. Et dit à Noé, il n'y a plus une seule condamnation pour toi. Parce que la pénalité de ton péché a été payée par le Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, on va voir Ésaïe qui va se lever. Il va dire que sa capacité à parler, sa capacité à prêcher, ce qui faisait de lui un prophète reconnu, ces choses ont été corrompus par le péché. Ésaïe 6, verset 5, « Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Mais l'Évangile dit, « Il n'y a plus une seule condamnation pour toi, Ésaïe. » Simon-Pierre va se lever. Comment est-ce que quelqu'un peut se surmonter une telle nuit où il a blasphémé le Seigneur Jésus-Christ alors que le Seigneur était là, sur le point d'aller à la croix? L'Évangile lui dit, Pierre, il n'y a plus une seule condamnation pour toi. Et on pourrait poser la question à tous les croyants jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus une seule condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai déjà cité cet exemple, mais c'est tellement frappant, John Newton qui a écrit Amazing Grace a écrit d'autres cantiques. Et dans un des cantiques, il écrit ceci, « Sois mon bouclier et ma cachette, afin qu'à l'abri à tes côtés, je puisse affronter mon accusateur féroce et lui dire, je ne suis pas aussi mauvais que tu le dis. Non, je suis pire que ce qu'il dit. Non, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que Christ est mort pour moi. » Même pas une seule condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une image ou une autre façon de voir la chose, de comprendre cela. Vous vous rappelez du vêtement que le Seigneur Jésus-Christ a porté, surtout vers la fin de son ministère. C'était un habit sans couture. Un habit qui n'a jamais été déchiré. Et vous vous rappelez que les soldats ont tiré au sort pour avoir cette tunique. Où est cette tunique aujourd'hui? Physiquement, sans doute détruite, mais spirituellement, elle est sur chaque croyant. Nous sommes revêtus de la justice parfaite de Jésus-Christ, une justice qui est sans défaut, qui est sans couture, des coutures qui pourraient lâcher. Il n'y a pas de point faible dans la justice de Christ. Et c'est la raison pour laquelle l'Évangile est une réalité tellement libératrice pour nous, qu'elle nous donne cette assurance. Oui, il y a la réalité du combat. Oui, nous sommes morts au péché, mais nous devons le combattre. Nous sommes morts à la loi, mais nous ne sommes pas encore parfaits selon les exigences de la loi. Mais nous sommes revêtus de la justice de Christ. Et parce que nous sommes encore pécheurs, parce que notre conscience est encore polluée par un sentiment de culpabilité, parce que Satan cherche à nous détruire, à nous éloigner de la croix de Christ. La vie reste un combat. Mais nous avons entre nos mains une épée. L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et nous pouvons dire à cette conscience qui nous condamne, à ce diable qui nous accuse, il n'y a aucun point faible dans la justice de Christ. Et donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parfois, on peut être frappé de façon brutale, de façon instantanée par un péché du passé, par un échec, par un manquement, petit ou grand. Et Satan va utiliser cela pour essayer de nous paralyser, pour assombrir notre esprit, pour enlever notre assurance. Mais on a ici le remède de l'Évangile. Il n'y a même pas une seule condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul commence avec ce premier point. L'assurance qu'il n'y a pas une seule condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxième chose que Paul souligne, il décrit ici l'expérience du chrétien, il parle de la libération par l'Esprit-Saint. Il n'y a plus de condamnation, mais il y a une libération par l'Esprit-Saint. Versets 1 et 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce qu'il faut souligner, ce qui est important à comprendre ici, c'est qu'au verset 2, Paul ne donne pas les fondements sur lesquels repose le verset 1. Ce n'est pas à cause de ce que l'Esprit fait dans nos vies qu'il n'y a pas de condamnation pour nous. Ce que Paul décrit ici, c'est l'évidence, c'est le signe, le symptôme qui montre qu'il n'y a pas de condamnation pour nous. Pour utiliser une image, si je vais voir mon médecin et je lui dis « je suis sûr d'avoir la grippe parce que j'ai une fièvre et j'ai un terrible mal de tête », je ne suis pas en train de dire au médecin que c'est la fièvre et le mal de tête qui provoquent la grippe. Mais je suis en train de dire que d'après les symptômes, je dois avoir la grippe. Et c'est de cette façon-là que raisonne l'apôtre Paul dans ce passage. Il dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et une des évidences qui montre que je suis en Christ et que donc il n'y a pas de condamnation pour moi, c'est que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et on voit le cœur du raisonnement de l'apôtre Paul ici. Comme le Père ne nous condamne pas, parce que nous sommes en Christ, l'Esprit vient et il suit le dessein du Père. Il nous libère de la loi du péché et de la mort. Et par son ministère, il y a cette merveilleuse réalité. Nous sommes affranchis, libérés de la loi de la mort et du péché. Mais qu'est-ce que Paul veut dire? Pourquoi est-ce que Paul ne dit pas l'Esprit vous a affranchi du péché et de la mort? Pourquoi est-ce qu'il dit « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort » On peut penser que Paul joue sur les mots. Et on peut penser que Paul revient à ce qu'il a dit au chapitre 7. Rappelez-vous, dans les versets 5 et 6, Paul dit « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions les fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. La loi de Dieu nous condamne, elle nous exclut de la présence de Dieu, elle nous exclut de la vie, c'est la loi qui va révéler le péché. Et nous avons vu que parfois la loi, elle agit même comme un catalyseur de notre rébellion contre Dieu. Cette loi apporte la mort. Mais Dieu nous a délivrés de cela. Alors pourquoi Paul parle ici de la loi de l'Esprit de vie? Et la réponse se trouve sans doute dans les grandes promesses que Dieu a données dans l'Ancien Testament au sujet de ce qui arriverait quand il établirait la nouvelle alliance. Et je ne citerai ici que deux passages, Jérémie 31, verset 33. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et Ézéchiel 36, versets 25 à 27, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et Paul est en train de dire ici, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, la loi ne peut me mener que vers l'esclavage. Mais avec l'aide de l'Esprit de Dieu, la loi est écrite dans mon cœur et elle devient l'énergie de ma vie. C'est toujours un signe majeur qu'une personne est devenue chrétienne. Les choses que cette personne haïssait, les choses de Dieu, la parole de Dieu, cette personne vient à les aimer. Et le croyant aujourd'hui peut dire avec les croyants de l'Ancien Testament, « J'aime ta loi, je prends plaisir à marcher dans tes sentiers, mon désir est de suivre tes ordonnances. » Oui, nous luttons contre la chair. Oui, il y a des ennemis autour de nous qui cherchent à nous séduire, mais notre désir maintenant, et de suivre, et d'être fidèle, et de servir le Seigneur. Et nous avons mal quand nous voyons le péché encore en nous, parce que Dieu a écrit sa loi dans notre cœur. C'est un des signes majeurs que nous appartenons à Christ. Ce n'est pas le fondement de notre justification. Dieu ne nous justifie pas sur la base de quoi que ce soit qu'il accomplit en nous. Dieu nous justifie sur la base de ce qu'il a accompli en Jésus-Christ. Mais un des signes que nous faisons partie de ceux pour lesquels il n'y a plus de justification, parce qu'ils sont en Christ, un des signes, c'est cette libération, cet affranchissement de la loi, comme un des moyens de condamnation. Et si ça, c'est un symptôme, quelle en est alors la cause ? Paul a commencé avec l'assurance qu'il n'y a pas de condamnation. Il dit que l'un des symptômes, l'une des marques, c'est cette libération de la loi du péché et de la mort à travers la loi de l'esprit de vie. Il y a la proclamation, l'assurance, il y a l'évidence. Maintenant, troisièmement, il y a le fondement. Il y en a ici, dans les versets 3 et 4, un des grands résumés de l'Évangile. Le fondement de tout ceci se trouve dans l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-le, l'argumentation de Paul, verset 3. « Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. » Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Dieu a fait en Jésus-Christ ce que la loi ne pouvait pas faire. Ce qui est impossible à la loi, Dieu l'a fait. Et qu'est-ce qui est impossible à la loi ? La loi ne peut pas justifier les pécheurs à cause de la faiblesse de notre chair. Paul ne dit pas qu'il y a des points faibles dans la loi. Paul ne dit pas que la loi n'est pas tout à fait parfaite. Non, Paul dit que de par sa propre nature, la loi ne peut pas effectuer ce qu'elle ordonne parce qu'elle n'a pas la puissance et parce que notre chair est faible. Beaucoup de personnes pensent que si elles faisaient quelques efforts, elles pourraient garder la loi de Dieu. Mais si ces personnes ne découvrent pas l'Évangile, elles vont terminer dans un désespoir total, en réalisant qu'elles n'arrivent pas. La loi ne peut pas les transformer. La loi ne peut pas les sauver. Dieu n'a jamais donné sa loi pour sauver quelqu'un. La loi ne possède pas la puissance pour sauver. Paul dit au début de sa lettre que c'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance, c'est même la dynamite pour le salut de quiconque croit. En commentant sur ce passage, Martin Luther utilise une image. Il dit ceci, « Le pécheur est comme un homme malade qui se dit, « Je vais boire du vin et j'irai mieux. » Et Luther va ajouter, « Il ne va pas aller mieux en buvant du vin. Mais si on lui donne un remède, alors il pourra boire du vin. » C'est d'abord le remède qu'il faut donner. C'est d'abord le remède. Et Dieu a accompli en Christ ce que la loi ne pouvait accomplir. Dieu a accompli, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. À cause de notre péché. Dieu n'a pas dit à son Fils, va voir ces êtres humains qui ont une justice parfaite. Non. Il va envoyer son Fils vers des êtres humains qui sont brisés, qui sont touchés par la chute d'Adam, qui sont corrompus par le péché, des rebelles contre Dieu, des personnes qui sont séparées, loin de la présence même de Dieu. Et Dieu envoie son Fils vers cette humanité pécheresse. Il a donné son Fils à cause de notre péché, dans une chair semblable à celle du péché. Deux choses au sujet de cette expression, de cette phrase. Paul, premièrement, ne dit pas que Dieu a envoyé son Fils dans la chair du péché. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Mais deuxièmement, Paul ne dit pas non plus que Dieu a envoyé son Fils semblable à la chair d'Adam. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le jardin d'Éden. Non, il a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin qu'il fasse l'expérience de ce que le péché a fait, le péché d'Adam a fait à notre chair. Il a apporté la tristesse, la douleur, la mort, la séparation, le rejet. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à la chair du péché. Christ est venu sans péché, mais il a connu la souffrance. Il a connu la douleur. Il a connu la faiblesse, la faim, la soif. Il a connu la crainte. Rappelez-vous, dans le jardin de Gethsémané, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Christ est venu dans une chair semblable à celle du péché. Et il est venu pour le péché. Dieu a condamné le péché dans son Fils. C'est pour cela qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà le fondement. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Christ a été condamné à notre place. Vous vous rappelez de ce passage d'Ésaïe 53, versets 5, 6, et puis plus loin, verset 10. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Puis le verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Voilà pourquoi je peux être libre des accusations de Satan ou des accusations de ma propre conscience. Oui, je sais que je suis encore pécheur, mais mon péché a été condamné en Christ. Et puisque Dieu est juste, il ne condamnera pas une deuxième fois ce qui a déjà été condamné. Il n'y a pas une double incrimination. Il n'y a pas double jeopardy. Ce qui a été condamné une fois ne le sera pas une deuxième. Christ a payé le prix dans sa totalité. Si mon péché a été condamné en Christ, il ne pourra jamais être condamné en moi. Il n'y a donc maintenant, si je suis à Christ, c'est une réalité présente aujourd'hui. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et quand je saisis cela, la justice de la loi est accomplie en nous qui marchons selon la chair, mais selon l'esprit. Dans son livre « Qui accusera les élus de Dieu ?»« La victoire de Romains 8 », l'auteur Raymond Ortlund, c'est un livre qui est publié chez Europress. L'auteur écrit ceci au sujet de cette partie. Il dit « Remarquons la finesse du raisonnement de Paul. Il ne dit pas « afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons selon l'esprit ». S'il s'était exprimé ainsi, je n'aurais pas remarqué que quelque chose manquait. C'est pourquoi il inclut une négation avant son affirmation. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La vie chrétienne authentique exclut la religiosité de la chair. À la place, non en plus, mais à la place, le Saint-Esprit nous rend sensibles à tout ce qui est conforme aux justes exigences de sa loi. Ainsi, la justice de la loi est accomplie en nous qui marchons selon la chair, non selon la chair, mais selon l'esprit. Une remarque pour terminer. Est-ce que vous avez remarqué que Paul mentionne le Père qui a envoyé son Fils et l'Esprit qui agit maintenant dans le cœur des croyants. Ce que Paul souligne ici, c'est que la raison pour laquelle nous pouvons nous réjouir dans cette assurance du salut, c'est que Dieu lui-même, de tout son être, est impliqué dans le salut de son peuple. Les trois personnes de la Trinité sont impliquées, déterminées à sauver ce peuple qui a été choisi depuis toujours. Le Père, le Fils et l'Esprit. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation, même pas une seule condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu nous a affranchis, Dieu nous a libérés, et tout cela à cause de ce qu'il a fait en Christ. Quel merveilleux message, quel merveilleux évangile, quel merveilleux sauveur. Quel Dieu de grâce nous avons. Que Dieu nous aide à saisir ces réalités, à saisir sa parole. Qu'il la bénisse dans nos cœurs et qu'il nous aide à la vivre pour sa gloire. Amen.